Nous avons vu le rôle éminent joué par Henri Feulard dans la création de la bibliothèque médicale de l'hôpital Saint-Louis. Création contemporaine de celle du musée des moulages. De ce point de vue, les souvenirs de Feulard sur cette période ont donc une valeur particulière. En 1865, raconte Feulard, de Vergy, sur le point de quitter l'hôpital Saint-Louis après y être resté comme chef de service pendant 25 années, eut la pensée d'offrir à l'administration de l'assistance publique, pour être exposé en public, une série d'aquarelles qu'il avait fait exécuter pour servir à son enseignement et qui reproduisaient les types les plus importants des affections de la peau. Le directeur général de l'administration de l'assistance publique, qui était alors M. Husson, accueillit avec empressement le don fait par M. de Vergy. Un emplacement fut choisi pour loger cette collection. Ce fut une petite galerie qui servait autrefois de passage et qui relie le corps principal de l'hôpital au service de la cuisine et de la pharmacie. On y installa les aquarelles de Vergy et c'est dans ce modeste couloir que prit naissance le musée de l'hôpital Saint-Louis en 1866-1867. Il est probable que l'initiative de Vergy fut restée sans avenir si M. Husson, toujours disposé à donner suite à tout ce qui peut concourir à l'instruction hospitalière, n'eût repris cette idée d'un musée à créer à l'hôpital Saint-Louis et ne lui eût donné le développement nécessaire, en lui assurant le concours pécuniaire de l'administration. Ceci se passait en 1869. Aux aquarelles données par de Vergy étaient venues se joindre des photographies faites par M. de Montméja pour M. Hardy et des aquarelles de Bion exécutées dans le service de Bazin. Mais si parfaites que fussent ces représentations graphiques, elles devaient forcément être inférieures à des modelages et à des moulages qui, aux mêmes qualités d'exactitude et de couleur, joignaient le précieux avantage du relief. Déjà M. Laillé, auquel le musée dut tant par la suite, avait fait exécuter quelques modèles en cire, analogues à ceux que l'on voit figurer dans certains musées d'anatomie, et les avait déposés au musée. Mais le modeleur qui avait fait ces reproductions avait quitté la France pour se rendre en Amérique. M. Laillé se mit en quête d'un remplaçant, et après bien des démarches, à force d'investigation auprès des modeleurs en cire, il finit par découvrir un jeune homme qui, doué d'une aptitude spéciale pour la reproduction du dessin et du coloris, arriva à surpasser tout ce qu'on avait fait en ce genre. Ce mouleur, cet artiste, était M. Barretta, qui fabriquait alors des fruits en carton-pierre. M. Laillé l'amena à l'hôpital Saint-Louis, le guida dans ses premiers essais, et mêlant à la fois l'encouragement et la critique, le poussa tant et si bien que M. Barretta, bientôt en possession d'une nouvelle pâte spéciale, produisit des moulages dont la perfection n'a pas été égalée et qui font l'admiration des médecins du monde entier. Les premiers moulages sortis de ses mains portent la date de 1867, et depuis cette époque, M. Barretta n'a pas cessé d'augmenter chaque année notre précieuse collection. À la fin de l'année 1894, celle-ci compte 1800 numéros. Bien vite à l'étroit dans la galerie qui leur avait d'abord été assignée, les collections du musée, en attendant la construction d'un local convenable, émigrèrent dans le service de M. Laillé, qui, voulant que les médecins étrangers qui viendraient à Paris pour l'exposition puissent étudier les pièces du musée dans des conditions plus favorables, leur donna l'hospitalité dans une de ses salles au premier étage du pavillon Bazin, en 1878. Enfin, termine Feulard dans son récit, en 1881, le directeur de l'assistance publique, M. Quentin, fit adopter le projet d'une vaste construction dont le rez-de-chaussée devait servir à la consultation externe de l'hôpital Saint-Louis et dont le premier étage était réservé au musée et à ses dépendances. Nous avons indiqué tout à l'heure le contexte politique et médical qui entourait cette création originale à l'hôpital Saint-Louis. Le musée fut donc inauguré le 5 août 1889, jour d'ouverture du premier congrès international de dermatologie. Avec un petit effort, vous pouvez imaginer à quoi pouvaient ressembler le musée et la bibliothèque en cette circonstance. L'escalier qui mène à l'étage du musée, racontent les témoins, avait été décoré de trophées et de drapeaux aux couleurs nationales et étrangères. Sur les murs avaient été placés des plans, des vues, des gravures et des photographies, reproduisant les aspects divers du vieil hôpital à travers les âges. Dans la salle de la bibliothèque à droite étaient installés les bureaux du congrès. La salle de conférence à gauche, récemment décorée des portraits des anciens médecins de l'hôpital, était réservée pour servir en cas de besoin de deuxième section et de salle de démonstration pour les préparations histologiques. La grande salle du musée avait été aménagée comme salle des séances. Les vitrines, garnies de leurs pièces pathologiques, formaient une décoration toute naturelle. Du balcon flottaient tout autour de la grande salle des bannières aux couleurs et aux armes de tous les pays représentés au Congrès. Les moulages, objets de décoration et d'instruction, constituaient en effet un attrait tout particulier, et de fait, aucune des collections de cires de dermatologie précédemment créées n'offrait une telle abondance de pièces. Bien qu'il n'existe que peu de témoignages de l'impression produite sur les congressistes par les moulages déjà réalisés par Barretta, il n'est pas déraisonnable d'imaginer leur étonnement mêlé d'admiration. L'attitude de Moritz Kaposi, chef de l'école de dermatologie de Vienne, qui décida à son retour dans la capitale autrichienne de développer une collection de cires, illustre l'impact médiatique de la collection de Saint-Louis. On notera d'ailleurs que Barretta contribua à enrichir les collections des musées de cires dermatologiques de plusieurs villes en France comme hors de France, à Lyon, à Londres, à Boston ou encore à Philadelphie. Le musée des moulages dans lequel vous vous trouvez maintenant est organisé à la manière d'un muséum d'histoire naturelle. La collection occupe 162 vitrines disposées sur deux niveaux entourant l'espace musée, vaste salle de plus de 400 mètres carrés. Sur l'un des côtés de la galerie supérieure, vous pouvez voir les aquarelles données par De Vergy et d'autres aquarelles réalisées à la demande de Bazin et de Cazenave, eux aussi chefs de service à Saint-Louis. Les moulages sont présentés sur des planchettes peintes en noir, accrochées sur le fond et les côtés des vitrines, disposition que pourtant Laillé considérait comme peu favorable à une bonne observation des pièces. Chaque moulage comporte les mentions du diagnostic de la maladie, de l'identité du mouleur et du médecin responsable. La collection comprend aujourd'hui 4807 pièces réalisées par Barretta pour l'essentiel et ses successeurs, Jumelin, Cordonneau, Fond, Couvreur et Litre. Elle est constituée de 4 sous-collections distinctes, la collection générale consacrée aux maladies de la peau et à la syphilis, qui comprend 3662 numéros, la collection Péan, chirurgien de Saint-Louis, composée de plus de 600 moulages réalisés par Barretta et qui furent donnés au musée par Madame Veuve Péan, la collection Parot, constituée de plus de 80 moulages de pédiatrie effectués par Jumelin, et la collection Fournier, composée de plus de 400 pièces de syphilis réalisées à l'hôpital de Lourcine par Jumelin. Le premier moulage, nous l'avons dit, date de 1867. Il porte naturellement le numéro 1. Il se trouve vitrine 34 et il s'agit d'un lupus érythémateux du visage. Fait à la demande de Laillé, il est signé Barretta. Le dernier moulage date de 1958. Il a été réalisé à la demande de Robert Degauss et Jean Meyer. Il est signé Litre. Il porte donc le numéro 3662 de la collection générale et vous pouvez le voir vitrine 22. Il s'agit d'une hyperkératose virusiforme. Quelques mots sur les origines de l'utilisation de la cire pour l'enseignement de la dermatologie. Les moulages en cire de l'hôpital Saint-Louis s'inscrivent dans une longue tradition d'usage médico-anatomique de la cire qui en France prit naissance au XVe siècle. De cette pratique émergea au XVIIe l'œuvre de l'abbé Gaetano Zumbo, dont les réalisations permirent l'éclosion d'une véritable science séroplastique qui rayonna dans l'Europe entière. La venue en France de Zumbo eut pour effet la multiplication des cabinets de curiosité qui, au XVIIIe siècle, se développèrent à la faveur de l'engouement de la société pour un savoir diversifié et encyclopédique. Ce fut la Révolution française qui fit évoluer les cires anatomiques vers une véritable fonction pédagogique. Témoin de cet intérêt accordé au moulage pour l'enseignement, la création en 1806 à Rouen d'une école de cirisculture rattachée à l'école de santé de Paris et qui fournit aux étudiants en médecine les outils d'une pédagogie avant tout pratique. D'objets de curiosité, sources de savoir pour quelques privilégiés, moulages et modèles anatomiques devinrent ainsi des objets de connaissances médicales et de compréhension scientifique dotés d'une fonction d'enseignement pour le plus grand nombre. Ainsi, la fonction pédagogique des collections de cire fut mise à profit dans plusieurs institutions d'enseignement, les écoles de santé, l'école vétérinaire de Maison Alfort, le muséum d'histoire naturelle ou encore les écoles des arts et métiers et l'école centrale des arts et manufactures. En dermatologie, l'utilisation de la cire fut plus tardive, mais s'inscrivit également dans une volonté pédagogique. Les premiers moulages de maladies de la peau furent l'œuvre de Franz Heinrich Martens, professeur à l'université de Jena, qui en 1804 réalisa une trentaine de moulages de maladies vénériennes. Les pièces, toujours visibles, réalisées à partir de 1830 par Joseph Town au Guy's Hospital de Londres, puis celle confectionnée par Elfinger dans les années 1850 à l'hôpital général de Vienne, s'inscrivent elles aussi dans cette première période de la séroplastie dermatologique. Les détails de la technique de fabrication des moulages ne sont qu'imparfaitement connus, et aujourd'hui encore les restaurateurs de moulages s'interrogent sur les modalités précises de confection des pièces. Aucun des mouleurs de Saint-Louis ne laissa d'instructions écrites sur les méthodes de fabrication et ne transmit de conseils ou d'instructions à son successeur. D'une manière générale, la fabrication d'un moulage en cire nécessitait trois phases successives. La fabrication d'un moule en plâtre, l'élaboration de la pièce en cire coulée dans le moule et la finition de la cire, essentielle pour obtenir le réalisme indispensable à l'objectif pédagogique. L'opération commençait par l'application sur la peau malade d'un plâtre liquide qui, en durcissant, devait épouser les reliefs les plus fins de la peau pathologique. Les zones pileuses pouvaient être recouvertes d'une résine pour éviter l'emprisonnement douloureux des poils dans le plâtre. Les paupières restaient fermées et étaient recouvertes de papier très humide. Cette étape inspira à Roger Millès, écrivain fasciné par l'hôpital Saint-Louis qu'il dénommait la cité de misère, quelques commentaires personnels sur l'atmosphère de l'atelier de Barretta. « Sans brutalité, écrivait Roger Millès, avec des douceurs de mère et une patience qui ne se dément pas, Barretta applique ses appareils. Et pendant que la matière prend, il cause avec le malade, s'intéresse à son affection, se fait raconter ses évolutions, gagne sans la chercher sa confiance, tant il inspire de sympathie. Le malade aime-t-il mieux se taire, comme il faut un certain temps pour que l'appareil durcisse et que la vue d'une pièce en préparation n'a rien de réjouissant, M. Barretta lui montre ses tableaux. Puis, il se met au piano et le voilà qui berce son client avec quelques vieilles mélodies. Après séchage, la face concave du moule en plâtre est étenduite d'un corps gras, de manière à rendre plus aisée la séparation ultérieure de la cire coulée dans le moule. La cire fondue, probablement des cires d'abeilles, plus rarement de la cire blanche de Smyrne ou du spermaceti dur et d'un prix de revient élevé, était ensuite coulée dans le moule. Des additifs pouvaient également être utilisés pour modifier la consistance de la cire et Barretta utilisait fréquemment de la gutta-percha. L'emploi de pigments naturels permettait d'obtenir des dégradés de couleurs parfois très nuancés, rendant de manière très fidèle les modifications de teinte des téguments malades. L'addition de céruse ou de blanc de plomb opacifiait la cire, qui, fondue au bain-marie, était colorée grâce à des pigments en poudre, dont le mélange permettait d'obtenir une gamme de teintes très étendue. L'emploi de pigments naturels affinait le réalisme et permettait d'obtenir des dégradés de couleurs très nuancées. Le rouge était fourni par la laque de Garance, le sang dragon ou la racine d'orcanette, l'indigo donnait les bleus, le safran, le fustique et le curcuma les jaunes, le noir de fumée et le charbon de bois fournissaient les teintes grises et noires. Après démoulage, les imperfections laissées par le moule étaient minutieusement aplanies, puis la pièce enduite d'huile de térébenthine. Outre les couleurs incorporées dans la cire couche après couche et résistant ainsi mieux au temps, il est probable que d'autres nuances de couleurs plus fines étaient appliquées au pinceau après démoulage. Les yeux, en fait assez rarement reproduits, étaient en verre soufflé ou en coquillage, quelques vrais cheveux accentuaient encore le réalisme de certains visages. La collection évolua au rythme d'une cinquantaine de moulages nouveaux par an dans les premières années, puis une centaine chaque année dans la période 1885-1890. La production diminua ensuite pour atteindre un faible niveau au début des années 1910, reflet de la situation précaire du poste de mouleur. Après le recrutement de Niclet, successeur de Barretta, ce rythme de production s'affaiblit à un niveau d'environ 60 pièces par an jusqu'en 1920. C'est en fait à partir des années 1920 que la production de moulage se ralentit significativement, 30 pièces par an jusqu'aux années 1930, puis quelques-unes seulement à partir de 1940. Le fort ralentissement de la fabrication des moulages à partir de 1939, lié aux difficultés d'approvisionnement en matières premières en période de guerre, s'accentua encore après-guerre et aboutit à l'extinction rapide de la séroplastie dermatologique à l'hôpital Saint-Louis. Aujourd'hui, le musée des moulages de Saint-Louis occupe une place particulière au sein des collections de moulages dermatologiques et des musées des hôpitaux de l'assistance publique à Paris. Il contient en effet la plus importante collection de cire dermatologique du monde et il est le seul musée hospitalier parisien visible aujourd'hui dans son état originel. Il bénéficia, on l'a vu très tôt, du soutien de l'assistance publique et de la ville de Paris, ce qui permit la construction d'un bâtiment spécifique dont l'architecture intérieure offrait toutes les facilités d'organisation et d'observation des pièces. La tenue du premier congrès international de la spécialité en même temps que l'inauguration du musée officialisa la nature des liens unissant le musée et l'école française de dermatologie, qui bénéficièrent en retour du prestige médiatique de la collection des moulages. La valeur patrimoniale de cette collection a été officialisée en 1992 par son classement à l'inventaire des monuments historiques. En 2001 et en 2002, la Société française d'histoire de la dermatologie, la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France et la Société française de dermatologie ont dirigé la restauration d'environ 1000 moulages qui ont pu être ainsi nettoyés pour être maintenant dans un état de présentation sans doute assez proche de l'état d'origine. Les autres pièces mériteraient de bénéficier du même travail de restauration. Quelques-unes semblent malheureusement définitivement détériorées. Toutefois, en regardant les vitrines de plus près, vous verrez que la plupart des moulages sont dans un état de conservation qui permet le plus souvent d'observer convenablement la morphologie des pathologies représentées.